Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Le pape François vient d'atterrir à Bagdad, en Irak. Visite historique, notre envoyé spécial en ligne dans un instant. La vaccination accélérée en France, promet le gouvernement. Nous verrons comment, combien, qui sera vacciné à la fin mars, avant les jours meilleurs peut-être du mois d'avril. Désormais, les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes sont autorisés à vacciner. L'Italie bloque l'exportation de doses AstraZeneca vers l'Australie, une première en Europe. Dans le même temps, deux pays s'émancipent, le Danemark et l'Autriche forment une alliance avec Israël pour développer des vaccins. Dans le journal, Jean Castex et Gérald Darmanin à Beauvais, secoués par deux nuits d'échauffourée et l'arrivée ce matin du dernier du Vendée Globe, un Finlandais de 58 ans qui n'est pas marin mais pilote de ligne et qui a bouclé son tour du monde en 116 jours. Invité d'Europe Midi, le grand reporter Patrick de Saint-Exupéry, qui signe aux arènes la traversée, un périple à travers l'immense forêt congolaise, sur les traces des génocidaires Hutus qui ont fui le Rwanda il y a 25 ans.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une visite événement auprès d'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde, anéantie par les conflits et les persécutions, avec une main tendue aux musulmans chiites, dans un pays meurtri où jamais aucun chef de l'Église catholique ne s'était rendu. Le pape François vient tout juste d'atterrir à Bagdad en Irak où vous vous trouvez, Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, avec un pape François pile à l'heure sur le tarmac de l'aéroport de Bagdad. François avec un masque qu'il a ôté un court instant pour saluer le premier ministre irakien au pied de l'avion. Deux hommes très souriants, complices, qui s'arrêtent en chemin pour échanger sur le tapis rouge et entouré par la haie d'honneur de la garde nationale, casque à plumes blanc sur la tête. La discussion se poursuit en ce moment dans le salon d'honneur. Des images sont diffusées, mais la conversation reste privée. Ramon, jeune charpentier qui a préparé le fauteuil du pape, se réjouit de cette arrivée.
Je n'arrive pas à croire ce qui arrive. Je ne peux même pas décrire mon sentiment. Je suis revenu vivre ici pour reconstruire ce qui avait été brûlé par Daesh. Le fait que le pape vienne, envoie ce message, cet endroit est sûr, vous pouvez revenir.
Le pape vient s'adresser aux chrétiens, évidemment, pour conforter dans leur choix ceux qui sont revenus s'installer ici. François, en pèlerin de paix, dit-il, pour s'adresser aussi aux musulmans. L'un des temps forts de sa visite, ce sera sa rencontre avec l'ayatollah Ali Sistani, demain plus haute autorité chiite. Un signe d'unité pour cette population très diverse en Irak. Ce sera dans la ville de Najaf, considéré comme le Vatican de cette branche de l'islam.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. Et en direct, merci. En France, le gouvernement fait donc le pari d'une vaccination de plus en plus rapide pour contenir l'épidémie et échapper au reconfinement. Désormais, les pharmaciens, infirmiers, sages-femmes sont autorisés à vacciner sans qu'un médecin soit systématiquement présent, décret paru ce matin au journal officiel. 135 000 doses supplémentaires iront ce week-end aux 23 départements les plus touchés, 12 000 à Nice, 11 000 à Paris. Et pour la suite, que nous dit le calendrier vaccinal des prochaines semaines? Anne Le Gall, quelle est l'ampleur du coup d'accélérateur promis par le gouvernement?
Alors l'objectif, c'est une première dose pour 10 millions de Français d'ici le 15 avril. Cela fait un peu plus d'un million d'injections par semaine. Cette accélération s'explique par le rythme des livraisons, puisqu'en mars-avril, nous devrions recevoir 22 millions de doses de vaccins, soit trois fois plus qu'en janvier-février. Ensuite, pour le mois de mai, le gouvernement vise 20 millions de premières doses. Cela veut dire que si vous avez plus de 50 ans, que vous faites partie des 60% de volontaires, vous devriez bénéficier de la première injection, donc d'ici la fin du mois de mai. Et d'ici l'été, 30 millions de personnes, soit deux tiers des adultes consentants, devraient pouvoir être vaccinés.
Et autre enjeu stratégique, Anne, la vaccination des soignants, toujours faible, beaucoup trop faible.
Oui, aujourd'hui, on est entre 30 et 40% de vaccination chez les soignants. C'est mieux que pour la vaccination anti-grippe, mais c'est loin d'être suffisant pour éviter les foyers infectieux. 27 000 Français ont attrapé le virus à l'hôpital. Le Covid-19 est devenu la première maladie nosocomiale. Olivier Véran incite donc fortement les soignants à se faire vacciner. Pas d'obligation à ce stade, mais le ministre de la Santé ne l'exclut pas si cela devient nécessaire.
Cette course au vaccin passe aussi par les épreuves de force avec les fabricants. AstraZeneca notamment, qui fait subir à l'Europe des retards d'approvisionnement. Hier, une première, l'Italie a bloqué l'exportation de 250 000 doses d'AstraZeneca destinées à l'Australie. La ministre française de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, s'en est expliquée ce matin sur Europe 1.
Nous utilisons tous les leviers. Nous, vous savez que nous avons lancé une inspection en janvier du site de production belge et que nous avons ensuite, sur cette base-là, lancé des inspections dans tous les sites d'enflaconnage qui dépendait de ce site belge. Nous avons établi qu'il n'y avait pas eu de livraison en dehors de l'Europe depuis ce site belge. Nous avons établi qu'il y avait des difficultés de production depuis ce site belge. Mais dans le contrat que nous avons avec AstraZeneca, nous ne sommes pas exclusivement dépendants de ce site. Et donc, rien n'interdit AstraZeneca de livrer depuis d'autres sites. Et c'est pour ça que l'Italie a bien fait de bloquer ses livraisons.
Agnès Pannier-Runacher avec Sonia Mabrouk. L'Europe qui surveille ses frontières, mais l'Europe qui semble se déliter dans cette course au vaccin, avec deux pays qui s'émancipent. C'est l'image de la soirée, le chancelier autrichien Sebastian Kurz, la première ministre Mette Frederiks, accueilli à Jérusalem par le Premier ministre israélien Netanyahou pour l'annonce d'une alliance entre les trois pays en vue de développer de nouveaux vaccins. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, c'est la solidarité européenne qui est mise à mal?
C'est clair que l'image des trois dirigeants côte à côte ne fait pas de bien à cette solidarité déjà fragilisée par les achats de vaccins russes et chinois à l'est de l'Europe. En termes de perception pour les opinions publiques, c'est ravageur. Pourtant, la Commission européenne ne critique pas officiellement la démarche de l'Autriche et du Danemark. Elle estime que toutes les énergies sont bonnes à prendre. Mais côté français, on est frontal dans les critiques. Sur notre antenne, la ministre de l'Industrie a rappelé que sans le cadre européen de vaccins, le Danemark, 6 millions d'habitants, et l'Autriche, 9 millions, n'aurait sans doute pas accès au vaccin aujourd'hui. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, pointe lui que l'accord avec Israël est très flou. On parle d'un fonds de recherche-développement sans objectif chiffré ou dans le temps. Il y a beaucoup de politique dans ce voyage du chancelier autrichien et de la première ministre danoise. Ils veulent calmer leurs opinions publiques, soupire un diplomate. Car il faut rappeler une chose, Israël ne produit aucun vaccin. Certes, sa campagne de vaccination est un succès, mais c'est grâce au vaccin BioNTech Pfizer conçu en Europe et que les Israéliens ont acheté et importé.
Isabelle Horry en direct depuis Bruxelles.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant la suite, Beauvais secoué par deux nuits d'échauffourée reçoit la visite du Premier ministre et l'arrivée du dernier du Vendée Globe.
Europe Midi, Patrick Cohen.
À Marseille, un homme armé d'un couteau a été arrêté aux abords d'une école juive. C'est un parent d'élève qui avait repéré ce suspect âgé de 60 ans à l'arrêt dans une voiture. Quand l'agent de sécurité de l'école s'est approché, l'homme est sorti avec un couteau de cuisine à la main. Il a pu être maîtrisé. Il est maintenant en garde à vue, pas plus d'informations pour l'instant. C'est Guillaume Bier qui vient de m'informer de tout cela, le chef du service police-justice d'Europe 1. À Beauvais, dans l'Oise, déplacement ce matin de Jean Castex et Gérald Darmanin à la rencontre des forces de sécurité au surlendemain de deux jours de violences urbaines dans un quartier de la ville. Hélène Terzian, vous les avez suivis.
Effectivement, les ministres Jean Castex et Gérald Darmanin ont tenu à se rendre de façon improvisée dans l'un des quartiers émaillés par les violences urbaines pour montrer que la sécurité reste au cœur de leurs préoccupations. Ils sont accompagnés de la maire de Beauvais, Caroline Cailleux.
C'est un peu dur à Beauvais en ce moment. C'est agité.
C'est quand même un peu inhabituel, heureusement, mais bon, quand on touche à la drogue, voilà, c'est...
Voilà la police nationale.
Les ministres ont salué les forces de l'ordre, témoigné de leur solidarité, notamment à l'égard de deux des trois policiers blessés lors des violences.
Alors, racontez-moi un peu ce qui s'est passé, messieurs. On a vu quelques images, effectivement édifiantes.
Des jets de mortier, puis des jets de...
Très violents et vraiment des gens très très déterminés, qui n'ont pas hésité à acheter des pierres, des boules de pétanque et autres.
Et là, comment allez-vous?
Ben ça va, plus motivé après les événements passés.
L'exécutif en première ligne sur le thème de la sécurité, mais très vite rattrapé par la crise. Les ministres sont interpellés par une habitante qui dit ne pas bénéficier des aides de l'État.
C'est pas qu'on ne gagne pas d'argent, c'est qu'on perd tous les mois 10 000 euros.
Depuis un an.
Pour nous, c'est terrible. Alors, heureusement qu'on avait une bonne trésorerie pour tenir jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, on ne peut plus. Donc sans PGE et sans les charges fixes qui sont prises en charge, on fait comment?
Les ministres qui ont toutefois dû poursuivre leur déplacement autour d'une table ronde sur le thème de la sécurité, 10 policiers supplémentaires viendront s'ajouter aux effectifs déjà renforcés par l'État. Une demande du président de la région, Xavier Bertrand, présent et assez en retrait. dans la salle.
Hélène Terzian depuis Beauvais. Les sports avec la fin du Vendée Globe, la vraie fin de l'édition 2021, ce matin, avec l'arrivée au Sable d'Olonne, du dernier de l'épreuve, 36 jours après le vainqueur et après 116 jours de navigation autour du monde. C'est un Finlandais de 58 ans, Harri Uusela, personnage atypique, Corinne Boulou.
Oui, Harri Uusela n'est pas un navigateur professionnel, ce qui donne encore plus de dimension à son exploit. C'est un pilote de ligne, habituellement aux commandes d'Airbus A350 pour la compagnie Finnair. Mais cet ingénieur aéronautique a cette passion de la mer chevillée au corps et au cœur depuis sa première traversée de l'Atlantique il y a une vingtaine d'années. Alors à 58 ans, c'est vrai, le capitaine Uusela a changé de casquette. Il a acheté son monocoque sur ses propres deniers et il s'est lancé dans l'aventure ce matin. Peu avant de franchir la ligne d'arrivée, dans une dernière vidéo envoyée à l'organisation, le Finlandais était d'ailleurs ému aux larmes.
Quel jour merveilleux. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, c'est sûr. Dans le top 3 au moins. Oh, je vais tellement apprécier ce moment. C'est vraiment incroyable.
Alors Harri Uusela a parfois trouvé le temps long à bord, mais il est resté toujours positif, heureux sur l'eau, ému aussi. C'est sans doute celui qui a envoyé le plus de photos à l'organisation, notamment de coucher de soleil, qu'il a partagé tout au long de son périple de 116 jours. Et ce matin, celui qui est devenu une attraction en Finlande a été accueilli comme il se doit par les Sablais présents pour saluer le 25e et dernier concurrent d'une édition record en tout point.
Merci à vous Corinne Boulou. Le temps, Anissa, a dit une petite amélioration pour cet après-midi.
Oui, et c'est par le nord, Patrick, que l'amélioration arrive avec cet après-midi. De belles éclaircies en Bretagne, en Normandie, sur les Hauts-de-France et en région parisienne. Là, le soleil va réussir à percer ce ciel gris que nous avons depuis deux jours. Le soleil sera bien plus généreux également sur la moitié sud. Attention tout de même, sur la moitié nord, nous avons la bise, ce vent de nord-est qui souffle et qui va nettement rafraîchir l'atmosphère. C'est-à-dire que les températures baissent et en plus de ça, la sensation de froid, elle est accentuée par cette bise. Dans le sud, c'est le Mistral qui se lève, là aussi, un vent du nord qui vient de temps en temps rafraîchir l'atmosphère. Alors notez que de l'Alsace jusqu'aux Alpes, sur le Grand Est, en fait, c'est là que nous avons le plus mauvais temps avec encore des nuages, de la pluie et puis surtout des chutes de neige à partir de 600 mètres d'altitude du côté des Vosges. Les températures, 6 degrés à Dunkerque, c'est frais, 8 à Paris et Saint-Etienne, 9 pour Clermont-Ferrand, 12 à Biarritz, 14 degrés à Bordeaux, 16 à Montpellier et 17 à Nîmes. Ça va encore baisser ce week-end, mais le soleil est de retour, surtout sur la moitié nord.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant avec nous, Patrick de Saint-Exupéry, le grand reporter qui signe aux arènes la traversée, périple à travers l'immense forêt congolaise sur les traces des génocidaires Hutus qui ont fui le Rwanda il y a 25 ans.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Patrick de Saint-Exupéry.
Bonjour.
Grand reporter hanté par le génocide rwandais.
Non, pas hanté.
Pas hanté.
Non, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je pense que c'est une histoire qui a un intérêt considérable. Je pense qu'on n'y a pas porté assez d'attention. Et donc, j'ai travaillé dessus pendant 30 ans, mais ce n'est pas une histoire qui me hante, c'est une histoire que je trouve importante et que j'ai toujours trouvé importante dès le début.
Alors, voilà. Donc, grand travailleur sur le génocide rwandais que vous avez couvert en 94 pour Le Figaro. Vous publiez aux arènes La Traversée, qui est à la fois un récit de voyage, une enquête de terrain et un réveil des mémoires, la mémoire des Congolais qui ont vu arriver les génocidaires Hutus en fuite à l'été 94. La question est, que s'est-il passé après le génocide? Les extrémistes Hutus ont-ils été épargnés, protégés par la France? Ont-ils été victimes d'un deuxième génocide, thèse propagée d'abord par François Mitterrand pour exonérer la responsabilité de la France, pour tenter de démontrer que, entre les bons et les méchants, la frontière n'est pas très nette ou qu'il n'y a pas réellement de bons et de méchants. Vous êtes donc retourné sur le terrain, sur les lieux du crime, ce que n'ont jamais fait beaucoup de protagonistes ou de commentateurs de ce drame. Un long voyage à pied, à moto, en bus, en bateau, à travers l'immense forêt congolaise. Voyage de combien de temps?
De 30 ans.
Oui.
De 30 ans, mais de 30 ans, parce que moi j'ai commencé à rentrer dans cette histoire en 1990, nous sommes en 2020, donc dans l'absolu c'est 30 ans, dans la réalité c'est 2-3 mois à peu près.
2-3 mois à travers la mousse.
C'est ça, la mousse. La mousse, c'est une expression qu'a inventé un Congolais qui s'appelle Ézéchiel, que j'ai rencontré à Goma et qui est un gars assez fantastique. Et on parle tous les deux dans une petite cour à Goma. Et je lui dis, voilà, je veux faire ça, je veux aller jusqu'à Kinshasa. Et puis il me dit, ah bon, tu vas aller dans la mousse. Et je comprends pas au début ce qu'il veut me dire. Et puis il m'explique, la mousse, la forêt, quoi. Et puis il me dit, mais tu verras, dans la forêt, il y a aussi de l'or partout qui tombe. Et je comprenais toujours pas. Il me dit, il y a les clairières et parfois on voit le soleil. Ouais. Et il était incroyable quand il parlait, il s'était présenté en candidat député, il me parlait d'une chaise en plastique dans une cour, il était un peu dépenaillé, il me racontait les dames de compagnie qui étaient au rez-de-chaussée, qui avaient plein de choses à raconter, enfin, voilà, on rencontre des gens extraordinaires quand on sort et qu'on prend un peu l'air, et quand on part un peu à l'aventure.
La mousse, parce que c'est une forêt primaire, vu du ciel, ça ressemble à un bouquet de persil, enfin, c'est quelque chose d'inextricable.
Il faut voir ce que c'est, quoi, déjà, le Congo, c'est grand comme l'Europe, à peu près. On est en plein cœur de l'Afrique. C'est un pays sur lequel on a raconté des choses et des choses, qu'on rate le cœur des ténèbres, enfin voilà, qui baigne dans tout un imaginaire. Et dans ce pays immense, vous avez quelques villes sur le pourtour de la mousse, de la forêt, qui sont un peu comme des îles au milieu de cet univers végétal qui vous enveloppe en permanence et dans lequel on manque presque parfois de se noyer.
Que vous explorez en plus en pleine saison des pluies, Patrick de Saint-Exupéry, pour corser le tout. Les amoureux de l'Afrique doivent se jeter sur votre livre, tout autant que ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. C'est un voyage extraordinaire. Mais 25 ans après, la mémoire est souvent fragile. Vous tombez parfois sur des vantards, sur des témoins qui refont l'histoire ou qui l'enjolivent sur votre, à propos de votre quête de témoins sur la fuite des génocidaires.
Oui, la question que vous me posez, en fait, c'est pourquoi j'ai fait ça.
Ouais.
Pourquoi j'ai fait ce voyage. Pour deux raisons, et je vais être très rapide. D'abord, parce que j'attendais que depuis 20 ans, ça fait 20 ans que j'attends que quelqu'un d'autre le fasse. Et puis personne ne l'a fait. Personne, pas de journaliste, personne. Et pourquoi j'attends que quelqu'un le fasse? Parce que depuis 20 ans, on a un espace, on va dire ça comme ça, un espace qui est envahi par des théories qui voudraient qu'il y ait eu un premier génocide au Rwanda et puis un deuxième qui soit produit de manière un petit peu vague, mais globalement au Congo. Hein. En fait, c'est pas aussi simple que ça, mais globalement, un deuxième génocide se serait produit au Congo.
On peut mettre des noms. Hein. Ça a été suggéré par François Mitterrand dès le sommet de Biarritz. Ça a été développé par Pierre Péan dans un livre qui a ensuite été salué par certains de ceux qui entouraient François Mitterrand, et notamment Hubert Védrine.
Ah oui, qui l'a salué, plus que salué, qui l'a tenu presque pour un ouvrage de référence. Mais Hubert Védrine est un peu le chef d'orchestre des négationnistes des événements du Rwanda. Hein, c'est quelque chose d'assez établi qui ne porte pas vraiment à la discussion. Et pourquoi j'ai fait ce voyage? Donc, parce que j'ai attendu pendant 20 ans et puis personne ne l'avait fait. Et moi, ayant beaucoup travaillé sur ce dossier, je me disais, mais ça serait bien que quelqu'un d'autre le fasse, quoi. J'ai pas envie de tout faire. Et puis bon, il se trouve que j'ai eu un peu de temps et que c'était l'occasion. Et la deuxième raison pour le faire, c'est que on parle de ces histoires comme de deux histoires distinctes. Il se serait produit une histoire au Rwanda, il se serait produit une autre histoire au Congo. Et moi, j'avais un sentiment, que c'était la même histoire qui se poursuivait. Et donc, la traversée que j'ai faite, je suis parti de Kigali, donc au Rwanda, pour aller jusqu'à Kinshasa, la capitale du Congo, en me disant, j'irai bien si je me trompe, si j'ai raison ou non. Est-ce que ce sont deux histoires distinctes, ou est-ce que c'est la même histoire? Et au final, c'est la même histoire. Et ce qui est absolument fascinant, c'est la continuité que l'on trouve dans cette histoire, par rapport, entre autres, au rôle de la France, pas de la France, de François Mitterrand, d'un petit groupe d'hommes qui vont mener une politique folle, irresponsable, démente, sans aucune limite et sans aucun frein qui normalement est propre à ce qu'on appelle les démocraties. Et là, c'est quelque chose qui ne laisse pas de me fasciner depuis plus de 30 ans. Comment se fait-il que ça ait pu se produire et que nulle part il n'y ait eu un frein? Nulle part, à aucun moment.
C'est-à-dire que les extrémistes Hutus, qui était d'abord au pouvoir au Rwanda, puis en fuite, ensuite au Congo. Ce qu'on appelle les génocidaires ont été protégés jusqu'au bout par la France.
Oui, s'il faut rentrer dans le détail rapidement, qu'est-ce qui se passe? On a la fin du génocide en 1994, et il y a une masse de population, il y a eu l'opération turquoise, une intervention militaro-humanitaire de Paris, et il y a une masse de population de à peu près 2 millions de personnes qui part au Zaïre, à l'époque c'était le Zaïre, aujourd'hui le Congo, et qui devient réfugié. Dans cette masse de population, il y a des innocents. Il ne s'agit pas de globaliser, il y a beaucoup d'innocents, mais il y a aussi
des chefs de guerre,
pires crapules qui ont mené le génocide, qui ont, si on essaie de résumer, inoculé à leur population le virus de la haine.
Avant de l'inoculer au Congo.
Et ils se retrouvent, tous ces gens-là se retrouvent mêlés au Congo dans une situation un peu désespérée, ils sont réfugiés. Sauf que dans ces camps de réfugiés, va se réorganiser l'appareil du génocide, qui va être réarmé, qui va être réentraîné, parce que lorsque on a commencé un génocide, on veut finir le boulot. C'est pas terminé, ça ne se termine jamais, ça continue tout le temps. Et donc cet appareil du génocide va être réarmé, réentraîné, etc., entre autres, par la France, hein, mais pas que, par Mitterrand et d'autres, mais pas que, par les Congolais. À l'époque, c'est Mobutu qui est au pouvoir. Mobutu va aussi utiliser ces gens-là. Et qu'est-ce qui va se passer au final? Là, je résume un petit peu, mais au final, les gens qui ont commis le génocide au Rwanda, les gens qui veulent finir le boulot, ces extrémistes vont aller jusqu'à immoler leur propre peuple. Ils vont l'entraîner dans une course folle, éperdue, hallucinante, à travers le pays, le Congo, à travers la forêt, dans la mousse. Et ils vont les immoler. Ils vont mourir de faim, ils vont mourir de soif. On va leur dire, mais non, continuez, il faut se battre.
Ils s'en servent comme bouclier humain aussi, d'une certaine façon.
C'est des gens qui vont user de leur population comme on userait du bétail. Incroyable.
En tout, on a 200 000 réfugiés qui sont portés disparus, même si tous n'ont pas été exterminés dans ces réfugiés et ces camps.
Aucun n'a été exterminé.
Il y a eu des tueries et il y a eu des massacres.
Mais c'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même chose. Un génocide.
C'est tellement simple, en fait. Il y a eu des morts, il y a eu des massacres. Oui, bien sûr, c'est indiscutable. Il y en a eu beaucoup, même. Mais des massacres ne font pas un génocide. Et quand bien même ce serait plusieurs massacres ou des tas de massacres, ça ne fait pas un génocide. Les mots, et c'est ça qui est terrible avec les mots, c'est qu'ils ont un sens, une valeur. L'extermination, c'est pas un massacre. C'est quoi même un massacre? C'est une personne? C'est 10 personnes? C'est 20 personnes? Il n'y a pas de mot plus indéfini dans la langue française que le massacre.
Ce qui vous anime, Patrick de Saint-Exupéry, on entend votre... votre colère, en tout cas, votre ferveur. Vous trouvez insupportable encore aujourd'hui de renvoyer dos à dos les victimes et leurs bourreaux, les 800 000 civils tutsis éliminés en 100 jours, il faut le rappeler, 8 000 morts par jour, et les extrémistes hutus qui ont été protégés et qui ont pu rester assez largement impunis.
Ni colère, ni ferveur. Je vais vous dire, ce matin, vous rigolez, mais je peux
non,
pas être plus
sincère. Je rigole pas parce que j'ai lu vos autres livres et je connais votre passion. J'ai dit tout à l'heure hanté, j'aurais pas dû dire hanté, mais votre passion pour ce sujet.
Je vais vous dire, ce matin, j'entendais sur une radio concurrente, mais qu'importe, la question d'un auditeur. Et je me suis dit deux choses en entendant ça. D'abord, je trouvais incroyable que ça soit pas l'animateur de l'émission qui ait posé lui-même cette question dans sa bouche.
Quelle était la question?
Quel était le rôle de la France? Et l'auditeur poursuivait, je ne voudrais pas que dans 30 ans des caporaux soient incriminés à cause de cette histoire. Je me disais, mais c'est incroyable, pourquoi les journalistes ou les animateurs n'osent pas poser cette question en direct? Et pourquoi ils ont besoin d'un auditeur? Le deuxième point qui était incroyablement frappant, c'est ce gars-là, cet auditeur, il posait la bonne question. Je ne voudrais pas qu'un caporal soit incriminé dans 30 ans pour cette histoire, parce que cette histoire-là, les responsabilités sont très claires, elles sont au niveau du politique et du militaire.
Qu'est-ce qu'il manque encore pour qu'elle soit établie? L'ouverture des archives, des procès, il y a des instructions en cours
Mais ça finira par être établi, ça fait 20 ans que je pense que tout finira par être établi.
Mais quand et comment
On approche, je crois que peu à peu, vous savez, à force d'avancer millimètre par millimètre, on finit par approcher. Mais je vais revenir sur cette question des militaires, parce que c'est une question fondamentale. J'ai un immense respect pour l'armée, pour les militaires, pour les soldats. Je dis bien les soldats, les gens de terrain, les gens qui sont prêts à faire beaucoup de choses. Au Rwanda, pendant l'opération turquoise, ces gens qui étaient sur le terrain n'ont rien à se reprocher. Ils ont fait un boulot incroyable. Je les ai vus dégoûtés sur place parce qu'on leur demandait de faire. Dégoûtés. Je les ai entendus dire « J'en ai marre de me faire acclamer par des bandes d'assassins. J'en ai marre. » Ça, c'était les soldats. Le problème, c'est les généraux, c'est les amiraux, c'est quelques personnes qui se sont lancées dans une guerre en solitaire et qui ont mis des mots incroyables pour essayer de justifier leur guerre.
Merci Patrick de Saint-Exupéry. J'aurais aimé qu'on parle des rencontres, de vos rencontres qui sont formidables dans ce livre, La Traversée, la jeune Rebecca qui est née avec la guerre, beaucoup d'autres. Mais bon, voilà, on a parlé, on a invité les auditeurs. Je pense qu'on les a, on leur a donné envie de lire votre livre, La Traversée, aux éditions Les Arènes. Merci à vous.
Merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Le 13h, puis la France bouge dans un instant. Bonne journée et bon week-end à l'écoute d'Europe 1.